Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allez, aujourd'hui, je suis avec Aurélien du Nampalaz. Je suis très content de te recevoir, Aurélien. Ça fait longtemps que je m'étais dit, tiens, faudrait que je reçoive Aurélien un jour sur le podcast. Et là, bah, c'est un petit peu l'occasion avec ton actu et ta participation à l'Hard Rock 100 dont tu vas nous parler. Comment vas-tu, Aurélien?
Ça va très bien. Je suis arrivé aux États-Unis il y a une dizaine de jours, là, donc tout va bien.
Eh ben écoute, j'imagine que ça doit être, tu dois être impatient de prendre ce départ. Et avant que tu nous parles de la course, pour la présenter un petit peu aussi à tous ceux qui ne la connaissent pas, même si elle est quand même mythique dans le paysage de l'ultra trail, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Eh ben, je m'appelle Aurélien, dans ta l'âge, j'ai 30 ans, je vis en Haute-Savoie, à côté du lac d'Annecy, sur une commune qui s'appelle Saint-Joriot. Je suis originaire de Savoie, juste un petit peu à côté. Je suis papa d'un enfant là qui vient d'avoir un an, et puis voilà, je fais du sport depuis tout jeune. Avant, je faisais du foot, ensuite du foot et du ski alpin, et j'ai commencé le trail à l'âge de 19 ans, en 2012.
Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'attire sur ces courses qui sont quand même longues, exigeantes, et puis dans des conditions qui sont pas évidentes, comme notamment sur la Hard Rock?
Bah, y a plusieurs choses qui m'attirent, hein. Sur une course comme la Hard Rock, typiquement, ça va être le profil de la course. Voilà, c'est très montagneux, c'est en altitude. Il y a quand même pas mal de parties où il faut marcher. C'est un parcours quand même relativement difficile. Et puis, j'aime les longues distances. Donc, forcément, là, c'est un 100 miles. C'est un 100 miles, comme tu disais, qui est mythique dans l'univers du trail. J'ai la chance de pouvoir y participer cette année. Donc là, voilà, c'est l'année pour se lancer sur cette course mythique. Ça va être dur, mais ça va être joli, ça va être grandiose.
Alors, l'année dernière, tu avais déjà été tiré au sort pour pouvoir y participer. Tu as ton enfant qui est né. Comment est-ce que tu as pu adapter ton entraînement avec cette nouvelle arrivée dans la famille qui perturbe, comme chacun le sait, chaque parent le sait, notamment au niveau sommeil? Comment est-ce que tu as réussi à adapter et concilier la vie perso, et puis continuer avec l'intensité des entraînements que nécessite le niveau d'être athlète élite?
Eh ben, déjà, je peux compter sur ma compagne, hein, qui est très présente pour ça. Mais on a eu la chance, pour l'instant, là, c'est notre premier enfant, on a eu la chance qu'on ait un bébé, entre guillemets, facile. Il a rapidement fait ses nuits, donc ça, c'est déjà une grande chance pour nous. L'année passée, c'est arrivé au mois de juillet, la naissance. Je me prépare pour l'UTMB 2022. Malheureusement, j'ai une blessure juste avant. Donc voilà, j'ai dû faire avec. Et puis, à partir du moment qu'il avait 3-4 mois, vraiment, il a vraiment fait ses nuits depuis ce moment-là, vraiment très, très bien. Donc là, c'est plus une question d'emploi du temps, voilà, gérer chez la nounou, choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me libérer du temps pour ma pratique sportive, donc je peux gérer et puis être présent pour lui, pour ma compagne. Mais ça se passe quand même vraiment très bien avec lui, il n'y a pas de souci, il est très gentil, il dort bien. Donc pourvu que ça dure, et puis on verra le jour où s'il y a un deuxième enfant comment ça se passe. Mais là, du coup, j'arrive à tout bien concilier jusqu'à présent.
Alors moi j'ai deux enfants, hein, et la dernière a fait ses nuits à presque un an. Donc en général, quand il y a des gens qui me disent il a fait ses nuits très rapidement, en général je tourne le dos, je pars, parce que ça me rend rageux un peu, tu vois. Mais en tout cas, c'est très cool, et très cool pour toi.
Ouais, c'est vrai.
Alors justement, comme tu le disais, sur 2022, t'as dû abandonner l'UTMB suite à une blessure. Est-ce que t'es resté un petit peu mentalement marqué de cet abandon, et comment est-ce que t'as fait pour te rebooster, te remotiver, et comment est-ce que t'as fait pour rebondir et repartir sur une préparation intense pour préparer cette Hard Rock?
Non, pas du tout marqué parce que malheureusement j'avais déjà eu des blessures dans le passé, donc c'était pas la première fois. Dans le passé, c'était une grosse frustration plutôt parce que l'idée c'était de faire l'UTMB et surtout Diagonale des Fous. On est parti 6 semaines avec le bébé derrière, donc j'étais surtout frustré de partir à la Réunion et de pas pouvoir courir cette course, plus que d'abandonner l'UTMB en soi. Après, malheureusement, c'est une fracture de fatigue, donc là je savais que la saison était complètement fichue. Et puis après, voilà, j'ai vraiment tourné le dos à cette saison 2022. J'ai attendu patiemment l'hiver, puis j'ai rattaqué le ski de randonnée comme je fais chaque hiver pour pouvoir me préparer, réaugmenter la charge d'entraînement avec un sport qui est moins contraignant quand même porté avec le ski de rando. Et puis après, voilà, faire cette transition course à pied à partir de mars-avril et puis augmenter progressivement la charge en vue de cette hard rock. Voilà, c'était vraiment le déclic au moment où j'ai su que j'étais choisi pour faire cette course au mois de décembre. À partir de là, j'ai fait un focus sur cette date du 14 juillet là dans 3 jours qui aura lieu où aura lieu l'hard rock, quoi.
Ouais, alors ça fait une, on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est une course qui est mythique dans le paysage de l'ultra trail. Il y a que 146 coureurs qui peuvent y participer. Pourquoi est-ce que il y a si peu de coureurs et qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qui fait d'elle une course si mythique et attendue et presque un Graal?
Ouais, en fait le fait d'avoir que 146 partants, ça participe à la singularité de cette course, je pense. Honnêtement, c'est un vraiment petit comité, on est très très proche du comité d'organisation. Enfin là, je mets des mails au directeur de course, j'ai la réponse vraiment dans l'après-midi, dans la journée. C'est vraiment complètement différent. Le ravitaillement, c'est beaucoup plus petit, forcément. Mais il n'y a pas de grosses tentes, il n'y a pas d'accès forcément très réglementé dans le sens où le ravitaillement, ça s'élipse sur une certaine distance. Et en même temps, c'est très très sauvage. Les accès sont quand même difficiles à certains endroits, il faut des 4x4. Et puis les gens sont vraiment tournés sur la course, tous les gens autour de Silverton là, c'est vraiment l'événement du moment, donc tout ça participe à le fait que ce soit une course particulière. Et puis le gros paramètre, c'est surtout l'altitude, comme on disait, on est en moyenne à plus de 3300 mètres d'altitude, donc ça change la donne.
Et mis à part des quelques courses en Europe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai pas vu des courses que tu as pu faire en dehors, dans d'autres, sur d'autres continents. Est-ce que là, pour le coup, tu sens qu'il y a vraiment une ambiance, un esprit trail qui est différent, avec des choses qui sont différentes aux États-Unis par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe?
Ouais, clairement. Par exemple, déjà la particularité du fait qu'on a le droit à un pacer à partir du kilomètre, je crois que c'est même 80. Moi, il sera parti à 92, mais à partir de kilomètre 80, on peut avoir un pacer, donc quelqu'un qui court avec nous. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est singulier aux États-Unis. Ensuite, le gros changement avec une course comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous aussi, c'est l'heure de départ de la course. C'est des courses, nous, en Europe, on a l'habitude de partir en fin de journée et de finir la course en milieu de journée, enfin pour l'UTMB. Et là, je vais partir à 6h du matin, donc un peu comme n'importe quelle course. Et je vais finir probablement, tout dépend du temps que je vais mettre, mais je vais finir de nuit. Donc la partie de nuit, je vais la courir alors que j'aurai déjà plus de 12-14 heures de course dans les pattes. Donc ouais, il y a pas mal de changements de ce point de vue-là, d'organisation de la course.
Finalement, tu vas ressentir ce que ressentent tous les coureurs comme moi du peloton qui doivent se taper la nuit après de longues heures et de longs kilomètres à marcher lentement.
Ouais. Ouais, probablement, ouais, c'est vrai qu'en plus la fin de parcours est très difficile, il reste pas mal de neige là, donc ça va être vraiment une aventure différente, je pense.
Ouais, justement, c'est les conditions météo là cette année sont, on annonce un terrain qui est quand même assez humide, boueux, encore de la neige en altitude, alors que les autres années c'était plutôt sec. Pour toi, ça te correspond plus, ça te change quelque chose dans ta stratégie, dans ta prépa, comment tu vis ça?
C'est vrai que j'ai eu l'occasion de reconnaître la fin de parcours là sur les 10 derniers jours et je me suis aperçu qu'il restait quand même pas mal de neige. Après, ça a quand même pas mal fondu là sur les 10 derniers jours, mais la neige est quand même sur les parties montantes ou même sur certains plats, donc on va devoir marcher là où d'habitude on peut un peu courir. Je verrai le jour J comment comment est le terrain de toute manière. Et mais oui, cette année la grosse gros changement, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, donc les rivières coulent beaucoup, ça fond, les terrains est quand même pas mal mouillé sur certains endroits, donc on va avoir les pieds très très souvent, je pense, mouillés. Donc faudra gérer aussi ça, espérer pas avoir problème avec avec les chaussures, avec les pieds. Et puis voilà, après faut s'adapter, hein, c'est l'ultra trail. Cette année on sait que c'est comme ça. Et moi ça me change, enfin ça me déplaît pas forcément qu'il y ait des conditions plus lentes sur le terrain.
Et alors justement, en ce qui concerne l'altitude, c'est un trail qui se fait quand même à une altitude, alors j'ai lu en moyenne 3350 mètres avec un point à 4284 mètres, c'est quand même haut. Est-ce que tu as été en altitude pendant ta session de reconnaissance, de prépa? Bon, après, tu habites quand même en montagne, tu viens pas comme beaucoup de métropolitains de plaine. Comment est-ce que tu as géré ça là-bas en prépa?
Moi, j'ai eu trois points différents pour cette prépa-là. C'est vrai que la dernière phase, bah, c'est celle-ci là où je suis aux États-Unis. Donc, j'aurais été présent quasiment 2 semaines avant la course. Là, je loge, on est à 2800 mètres d'altitude. Je suis allé sur le parcours plusieurs fois à plus de 4000. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et en amont de ça, j'avais fait un travail avec une tente hypoxique chez moi. J'ai une entreprise française qui m'a prêté gentiment une tente. Donc j'ai fait 3 semaines où je dormais dans une tente chez moi hypoxique autour du lit, où je pouvais me mettre entre 3500 et 4000 mètres à peu près d'altitude. Donc où j'alternais des nuits entre 8 et 10 heures en altitude. Donc je pense que c'était une première phase qui m'a, je pense, aidé. Et ensuite, au milieu de cette phase-là, j'ai fait une compétition de Monte Rosa Sky Marathon en Italie, une course de sky running où on est monté à 4550, je crois, d'altitude. Donc sur une course de 4 heures de temps, donc c'était une intensité assez élevée, c'est une course à deux. Donc on est parti, on est monté 3500, redescendu. Alors, on n'est pas resté longtemps en haut, mais ça m'a permis de voir que j'ai pas eu de soucis en haut, aucun mauvais signe de mal de montagne, quoi que ce soit. Donc à partir de là, bon, c'est voilà, avec les trois phases là, la phase tente hypoxique, la course et puis la dernière phase là d'acclimatation sur place, je pense que la préparation de l'altitude elle est pas mal. Après le jour J, je verrai comment mon corps réagit.
C'est quelle marque, on peut les citer, hein, l'entreprise qui t'a prêté cette tente?
Je vais pas dire de bêtises, c'est Trek Alti. Je vais vérifier, ouais c'est ça, c'est Trek Alti je crois.
Trek Alti.
Ouais c'est ça, très qualité.
D'accord, ben, très bien. Eh ben merci à eux. Moi j'adore nommer les entreprises qui soutiennent comme ça les athlètes dans leur préparation de leur objectif, surtout quand ils sont aussi importants que la Hard Rock. Ouais. C'est un plateau qui est quand même très relevé, la Hard Rock, avec il y a Dylan Bowman pour chez les Américains, il y a Courtney. Et Benyat Marmisol qui est présent aussi, Anne-Lise Rousset chez Français encore. Comment est-ce que toi tu appréhendes comment est-ce que tu vas te gérer un petit peu ton début de course? Est-ce que tu vas essayer de rester dans un groupe, mener? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que tu fais ça plutôt au feeling? Est-ce que tu as un plan qui est vraiment très strict? Comment tu gères ça?
Non, absolument pas, je suis plutôt au feeling. Je m'adapte vraiment selon la forme du jour déjà, premièrement, puis selon mes adversaires. Je sais pas, je suis vraiment impatient de voir comment vont partir des coureurs comme Benyat, comme Dylan qui a déjà fait la course, des autres Américains aussi qui sont plutôt rapides. Donc là, c'est une course qui est quand même plutôt lente dans la mesure où la pente est quand même assez raide dès le début en plus. Donc je verrai vraiment comment ça va se passer. Dans l'idéal, je voudrais essayer de courir avec quelqu'un certaines parties de la course, quoi, au début, ce serait quand même pas mal. Mais après, vraiment, je verrai au feeling. Si je me sens très bien, je prendrai le lead. Mais ouais, ça va vraiment dépendre des autres et de moi le jour J.
Mmh. Ouais, c'est toujours une histoire d'adaptation et de réponse aux signaux qui sont particuliers quand même à chaque course. Tu vas ressentir toujours des sensations différentes au départ. Et c'est la beauté de notre sport. La Hard Rock, on l'a dit tout à l'heure, 140 et quelques participants. Et, est-ce que s'il y avait un conseil que tu pouvais donner à des coureurs qui souhaiteraient y participer, quel serait ton conseil ou tes conseils que tu donnerais pour bien préparer ou d'autres courses à faire peut-être en France ou sans aller traverser l'Atlantique pour préparer ce type de course.
Voilà, déjà pour ceux qui ont la chance d'y aller, déjà ça serait déjà très beau parce que c'est vrai qu'on est on est peu de Français là au départ. Je crois qu'on doit être 4 ou 5 cette année avec Anis, Beignat et je crois qu'il y a encore une ou deux personnes. Mais vraiment pour avoir vu le parcours là, la meilleure préparation c'est d'aller faire des longues balades en montagne hein, vraiment parce que bon, oui on court sur la course hein, mais quand même il y a beaucoup de parties où on va marcher, la fin de course est très dure. On va finir de nuit, on va pas aller vite, donc vraiment s'habituer à marcher longuement en montagne avec des bâtons, là c'est vraiment indispensable sur une course comme ça. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne les prennent pas, mais vraiment s'habituer à ce rythme de qu'on a sur des ultra trails, hein, de marche sur des longues montées. Les montées ici font en moyenne minimum 800 mètres. Hein, on a des montées même bien plus, on a une montée de 1500, 1600 mètres je crois. Donc vraiment hein, alterner ces grosses montées, grosses descentes. Pour se préparer à cette course. Quoi.
Ouais, c'est sûr, d'aller faire un maximum de rando, courses en montagne avec des rythmes lents, longs. Ça, c'est, et puis surtout de se préparer aussi à l'altitude. Est-ce que ça change quelque chose en termes d'alimentation pour toi, ces altitudes importantes?
Bah, pour l'instant, j'ai pas vu de grosses différences sur mes entraînements. Après, je verrai le jour J, hein, sur l'intensité de course, ça peut être différent. L'année passée, François Adène, il a eu des problèmes de ventre, hein, donc ouais, là, on passe quand même rapidement à plus de 4000 mètres. Enfin, tous les sommets, à chaque fois qu'on passe, on est très proche de, souvent, on est à 3009, 3950, et puis parfois à plus de 4000 et même 4003. Donc, je pense que ça va changer quand même la donne le jour J avec l'intensité de la course, le stress, l'adrénaline. Donc, je verrai comment mon corps réagit, ouais.
Alors, c'est Valérie hein, de chez Compressport qui nous a mis en relation et je la remercie. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur la collab avec Compressport? Ça fait déjà un moment, je crois, que t'es chez eux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment est-ce que vous avez réussi à tisser ce partenariat ensemble depuis si longtemps?
Ouais, je porte des manchons Compressport depuis le début, même la première année où j'étais pas en partenariat avec eux. Et puis ensuite, ils m'ont aidé dès la seconde année, depuis 2013. Donc au début, c'était que des manchons, je portais que des manchons, je crois, cuisses, mollets. Et puis tout doucement, ils se sont vraiment développés dans toute leur gamme vêtements, autant des vêtements de tous les jours que t-shirt, short, sac. Dans le best-seller, c'est vraiment le sac de course ultra pack là, le 10 10 litres qui est vraiment exceptionnel et vraiment je pourrais pas m'en passer je pense. Et j'ai la chance que les bureaux Compressport soient à Annecy, donc vraiment à 15 minutes de chez moi, et on développe beaucoup ensemble les produits. Ils m'envoient beaucoup de prototypes, moi je fais des retours sur les produits, que ce soit les shorts, les sacs, les chaussettes manchons. Et au fil des années, le partenariat prend de plus en plus de sens parce que voilà, je connais toute l'équipe, ils me connaissent très bien et puis ils me suivent beaucoup sur les événements. Là on va faire un suivi qualitatif sur la course. Voilà, il y a un photographe, je sais que toute l'équipe est derrière moi, donc c'est vraiment très appréciable d'avoir un partenariat qui dure depuis 10 ans maintenant.
C'est qui le photographe qui vient te suivre?
C'est Simon Duguet qui est avec moi là à côté.
Ah, Simon que j'ai reçu sur le podcast aussi qui est un collègue youtubeur. On salue Simon s'il écoute, tu lui passeras le bonjour de ma part. Aurélien, allez, sans être ambitieux, enfin si, en étant ambitieux mais tout en restant modeste et tout en restant rationnel, tout ce que tu veux. Objectif, victoire.
Bah oui, ouais, ça serait le scénario parfait. Après, ça reste, comme je l'ai beaucoup dit à beaucoup de personnes, ça reste un 100 miles et donc il y a tellement de paramètres que je gère pas, des problèmes qui peuvent arriver. Il y a l'ambition ultime, c'est celle-ci. Et après, je pourrais être très satisfait d'une deuxième ou une troisième place selon le contexte. Donc,
C'est vrai qu'avec un niveau aussi relevé, même un podium, c'est quand même une sacrée belle performance. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer un petit peu cette avant, parce que chers auditeurs, c'est la partie 1 de notre échange avec Aurélien au sujet de la Hard Rock. Et puis on fera un autre échange en partie 2 du coup pour savoir comment est-ce que ça s'est passé concrètement cette Hard Rock. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu aurais aimé ajouter, préciser pour clôturer notre échange?
Non, peut-être pas par la course, mais juste pour dire à ceux qui auraient l'ambition et la chance de venir ici que, en tout cas, je pense que c'est une aventure qui peut être vraiment exceptionnelle, ne serait-ce qu'on parle beaucoup de la course là, mais c'est vraiment un dépaysement plus que la course, le fait de venir aux États-Unis, Colorado, c'est pour moi sa première fois, et là j'ai pu en profiter pendant plus de 10 jours déjà ici, voilà, cette ambiance américaine, ces paysages, ces grandes routes, ces petites villes, c'est vraiment une atmosphère qu'on retrouve pas chez nous, et ce changement, ça me motive vraiment faire une bonne course, j'espère, pour tous ceux qui nous suivent en métropole, et puis si les gens ont cette opportunité un jour, qu'ils en profitent comme j'en profite ces jours-ci.
Et justement, en parlant des conditions qui sont quand même particulières dans cette ambiance américaine, je crois que vous avez quelques risques, je sais pas si on peut appeler ça des risques, mais de croiser des ours. Est-ce que vous êtes un peu briefé, préparé à toutes ces éventuelles péripéties qui peuvent arriver et dont on n'est pas habitué chez nous?
Ouais, c'est marrant parce que l'ours, nous on l'a pas vu hier avec Simon, on allait courir, mais mes proches qui sont avec moi là, ils l'ont vu. Ils ont vu un gros ours et ils nous ont pris en photo. Nous, je l'ai toujours pas vu malheureusement. L'ours, non, je crois pas qu'il nous en parle vraiment dans les consignes de sécurité. Il nous parle plutôt des mauvais temps, le mal des montagnes, choses comme ça. Et on a une balise GPS avec nous avec un bouton à actionner en cas de soucis. On a une petite formation, je crois qu'on va chercher le dossard. Mais par rapport à l'ours, je crois pas qu'on ait de soucis. Après, le temps est beau là pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais s'il fait grand beau, il n'y a pas de raison d'avoir de soucis particuliers sur la course.
Bon, en tout cas, je te souhaite de passer un très bon moment sur ces montagnes du Colorado. J'espère que ça se déroulera comme tu le souhaites. Mmh. Et puis, j'ai déjà hâte de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, en tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Merci Aurélien de t'être rendu dispo depuis les États-Unis. C'est très sympa. Bonne course à toi.
Merci, c'était sympa. Et puis, avec plaisir pour vous raconter ça dans quelques jours, savoir comment ça s'est passé.
Trop bien. Merci, à bientôt.
Allez, à bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.